Eh bien, bonjour à tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Youssef Hindi, qui est écrivain, spécialiste de l'histoire des religions. Je pense que je vous présente correctement.
Oui, on peut dire ça.
Et puis, nous aurons pas, il est dans le studio, mais nous aurons par téléphone aussi l'abbé Olivier Rioux, qui est prêtre, évidemment, et écrivain et éditeur, voilà, qui a publié de nombreux ouvrages. Alors, je cite d'emblée les ouvrages dont nous allons parler, entre autres d'ailleurs. En ce qui concerne Youssef Hindi, il a fait paraître un livre récemment qui s'appelle « Israël et la guerre mondiale des religions », qu'il a écrit avec Pierre-Antoine Plaquevent, et c'est paru aux éditions Culture et Racines. Et puis, quant à l'abbé Olivier Rioux, son dernier titre est « L'anti-judaïsme chrétien selon le magistère ». Voilà, réponse aux évêques de France, sous-titre, édition Saint-Agobard. Voilà, il a publié beaucoup de livres chez cet éditeur Agobard, dont par exemple une réédition du Talmud, par exemple, un écrit sur le poison du corps et de l'âme de l'esprit dans l'écran, les écrans. Voilà. Et puis, je l'avais invité précédemment, il y a quelque temps déjà, pour un essai sur la mort, l'assassinat, on peut dire, de Jean-Bastien Thiry. Voilà. Qui s'appelait De Gaulle et la tyrannicide. Voilà, eh bien nous allons commencer avec, nous n'avons pas encore en ligne l'abbé Rioux, donc nous allons évidemment commencer par lire, comme d'habitude, un texte tiré de ma poésie française, florilège critique et passionné de notre poésie. Alors, nous finissons avec Ronsard, c'est la dernière émission sur Ronsard, et nous passerons à d'autres personnalités de la Pléiade. Mis à part l'apport technique assez considérable, comment apprécier ce qui nous reste de poésie dans l'œuvre de Ronsard ? Dans l'élégie, qui sert de préface au second livre des Amours, il exprime cette profession de foi. « Or, si quelqu'un après me vient blâmer, de quoi je ne suis plus si grave en mes vers que gestoi, à mon commencement, quand l'humeur pindarique enfloie ampoulément ma bouche magnifique. Dis-lui que les amours ne se souspirent pas d'un vers autrement grave, ainsi d'un beau style bas. Populaire et plaisant, ainsi qu'a fait Tibulle, l'ingénieuse Ovide et le docte Catulle. Le fils de Vénus hait ses ostentations. Il suffit qu'on lui chante au vrai ses passions, sans enflure ni phare, d'un mignard et doux style coulant d'un petit bruit comme une eau qui distille. Cette profession de foi est fidèle à Ovide et surtout à Properce, le Properce des élégies, et est satisfait au programme fixé par Du Bellay. Je crois qu'une fois de plus, un poète a été lucide. Toute modestie mise à part, la bouche, l'organe de Ronsard, fut en un sens magnifique. Mais quand il l'essaya à la hauteur d'un Pindare ou d'un Homère, elle fut ampoulée, pleine d'enflure et de phare. Il lui restait Tibulle, Ovide, Catulle et Pétrarque, qu'il n'a d'ailleurs jamais égalé, mais il est remarquable, et ce n'est pas un hasard, que le plus grand Italien, Dante Alighieri, ait été mis sous le boisseau, comme escamoté, par la Pléiade, il lui restait ce mignard et doux style coulant d'un bruit comme une eau qui distille. Humour, profondeur, sens du tragique sont pour lui l'antithèse du vrai. C'est pourquoi, manquant essentiellement de gravité, il demeura un maître du ballet, de ballet brillant, mais Terpsichore, à elle seule, ne saurait suffire à la complexe lyre d'Apollon. Un peu de musique. Eh bien voilà, pour une fois ce n'était pas une musique du 16e siècle, vous avez reconnu sans doute My Favorite Thing de John Coltrane, que j'aime beaucoup. Voilà, eh bien je vais commencer, bonjour l'abbé Olivier Rioux, je
bonjour,
vous
monsieur.
Vois enfin. Je vais commencer par poser quelques questions à Youssef Indy, évidemment vous intervenez si vous le désirez, quand vous voulez, voilà, et après je m'adresserai directement à vous.
Pas
alors soucis. Youssef Indy, je ne sais pas, on va essayer de définir ce qu'est, j'aimerais qu'on définisse pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'un israélite finalement, qu'est-ce qu'un juif?
Oh, c'est une
vaste question.
C'est une très vaste question.
Je sais, oui. si on a que vous avez une idée sur l'historique, etc. Enfin, bref.
Oui, ouais. Alors, si
c'est pas évident. Enfin, tout le monde sait qu'il y a les Ashkénazes et les Séfarades. Bon.
Ah, en fait, moi, j'allais remonter à l'Antiquité.
Allez-y, remontez à l'Antiquité.
le terme juif est un dérivé de judéen, de Juda, donc la tribu de Juda. Dans l'Antiquité, il y avait un grand royaume, enfin grand, toute proportion gardée,
oui.
Un royaume qui s'appelait le royaume d'Israël. Puis il y a eu une division entre les deux royaumes très tôt, et on a eu le royaume du nord qui s'appelait le royaume d'Israël, et le royaume du sud, le royaume de Juda. Donc c'était la plus grande tribu. Le royaume d'Israël a été détruit.
C'était quoi, bien avant Jésus-Christ?
Alors, je vais donner les dates. Par exemple, la division serait advenue vers la fin du Xe siècle avant Jésus-Christ.
Oui.
La destruction du royaume d'Israël est advenue en 722 avant Jésus-Christ par les Assyriens. Puis, le royaume de Juda, le royaume du sud, donc qui représentait la plus grande des tribus, tribu de Juda, a été détruit par les Babyloniens en 587-586 par les Babyloniens, et qui ont détruit et le royaume
et le
temple, le premier temple. Si on fait un...
Alors, premier temple, c'est le temple de Jérusalem, qui est à Jérusalem.
Oui, mais le second temple aussi était à Jérusalem. Oui. On dit premier et second temple, parce que le premier a été détruit. Donc c'est le temple de Salomon,
oui,
qui a été fondé par le roi prophète Salomon. Il a été détruit par les Babyloniens, il a été reconstruit à l'époque perse, et il a été détruit par les Romains en 70 de l'ère commune, après Jésus-Christ. Je vais faire un bond dans le temps, parce que sinon on va pas en finir.
Oui.
Donc les Juifs d'aujourd'hui ne sont pas tous descendants des Hébreux. Eux pensent qu'ils sont descendants des Hébreux,
oui,
mais la grande majorité des Juifs d'aujourd'hui ne sont pas des descendants des Hébreux.
Oui, c'est
vous,
un...
Vous avez les Ashkénazes,
étrange,
il y a eu des études génétiques, hein,
oui,
je
oui.
m'appuie sur des études génétiques, les Ashkénazes ont une infime trace de sémites, ou de sémitisme dans le sang, puisqu'en fait les Ashkénazes sont les descendants d'Européens, d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, convertis au judaïsme. Une bonne partie sont des descendants de convertis.
Ouais.
Une autre partie sont des Européens qui se sont... On trouve des traces de sémitiques dans leur gène, parce qu'une partie d'entre eux se sont mariés à des Hébreux, puisqu'il y a eu des diasporas à l'époque babylonienne, à l'époque perse, à l'époque hellénistique et à l'époque romaine.
Donc des mariages mixtes.
Voilà, des mariages mixtes. Pour ce qui est de ce qu'on appelle abusivement les séfarades, en fait, séfarades, c'est séfarim, ce sont les juifs d'Espagne. Mais par extension, on appelle séfarades tous les juifs, en gros, du bassin méditerranéen.
Ouais.
Alors, une partie d'entre eux ne sont pas sémites, puisque ce sont des berbères, comme moi, convertis, pas comme moi, au judaïsme.
Ouais.
Vous avez des arabes qui sont arrivés avec les Arabes au 7e siècle durant l'expansion musulmane. Donc on peut dire qu'eux, ce sont des sémites. Et en fait, en définitive, très peu d'Hébreux. Donc la majorité...
Les sémites, alors dans les sémites, il y a aussi les Arabes, non?
Oui, bien sûr.
Oui, c'est ça.
Oui, oui, les Arabes, les Acadiens, les Araméens, etc. Donc ce sont les descendants de Sem, si on se base sur le récit biblique. Mais donc, pour en venir à Israël, la majorité des Israéliens aujourd'hui, parce que c'est le sujet qui nous intéresse, ne sont pas des sémites. Les Ashkénazes ne sont pas des sémites. Et parmi les séfarades, une partie d'entre eux sont sémites parce que descendants des Arabes. Donc ceux qui disent, comme Netanyahou, que nous sommes revenus sur la terre dont on a été
De nos
chassés, ben
ancêtres,
en fait, ce sont des Polonais, des Juifs
Ou
polonais.
des Ukrainiens, je crois qu'il est ukrainien, lui, non?
Il est polonais.
Polonais, d'accord.
Par exemple, Jabotinsky était ukrainien, etc. Bref, ils n'ont pas de lien génétique avec les anciens Hébreux.
D'accord.
Alors que les études génétiques ont montré que les Palestiniens, eux, avaient un code génétique similaire aux anciens Hébreux, aux anciens Cananéens, etc.
D'où le paradoxe.
Paradoxe.
Incroyable. Et Netanyahou, lui, c'est pas son vrai nom d'ailleurs, je crois.
Non, 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 c'est Mikhaïlovski, quelque chose comme ça.
C'est ça, c'est un nom polonais, c'est ça.
Oui,
Mais
oui, oui.
d'accord.
Ouais.
Alors il y a beaucoup d'Ukrainiens aussi, etc.
Oui, russe.
Donc,
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de
dont
Russes.
Zelensky, d'ailleurs, Zelensky est un.
Est un juif ukrainien. D'ailleurs, en Israël, il y a entre 1 et 2 millions de Russes, de russophones. La plupart ne parlent même pas hébreu, et beaucoup d'entre eux se sont fait passer pour des juifs après l'effondrement du bloc soviétique pour s'installer en Israël. Ils sont même pas juifs.
D'accord, mais ils sont convertis, hein, j'ai vu ça. Ouais,
Donc, convertis. En fait, pour vous installer en Israël, vous n'avez pas besoin de vous convertir. Vous avez juste besoin de prouver que vous avez des
des
parents,
ascendants, ah,
des
d'accord.
ascendants
En
juifs,
particulier la mère.
en particulier la mère.
D'accord. Très bien. Monsieur l'abbé,
Oui.
qu'en
Alors,
pensez-vous de
ben, je vais
ce...
essayer de répondre aussi à votre question d'une autre manière, parce que ce que Monsieur Indy a dit est assez juste, hein.
Bien
Un
sûr.
juif, je vais citer simplement un prix Nobel qui s'appelait Isaac Bashevis Singer. Et il disait lui-même qu'un juif, c'est quelqu'un qui, n'arrivant pas à trouver le sommeil, empêche tout le monde de s'endormir.
Ah oui, j'ai lu ça quelque part, ben, dans votre livre, je crois.
Et voilà, donc, je la cite parce qu'elle résume bien le problème du mal-être juif. Qui est fondée sur une imposture qu'a signalé M. Indy. En fait, le mot juif aujourd'hui est un équivoque, c'est un mot équivoque qui désigne deux réalités absolument opposées. Le mosaïsme, qui a disparu depuis la destruction du temple de manière définitive, et le talmudo-sionisme, le sionisme étant une version laïque du Talmud.
Oui,
Et donc,
je voulais préciser que vous avez réédité d'ailleurs le Talmud, enfin une édition, vous avez fait une édition du Talmud dans votre édition, l'édition Saint-Agobard, hein.
oui, alors c'est
Voilà.
des articles de Rivarol écrits sur le Talmud, d'une présentation du Talmud. Donc c'est pas le Talmud, c'est une présentation.
D'accord, ouais.
Et donc aujourd'hui, oui, le mot juif, en fait, est un équivoque. Il désigne deux réalités opposées, car le mosaïsme préparait et annonçait le christianisme, tandis que le talmudo-sionisme est le principal ennemi du christianisme, hein, puisqu'il est l'héritière du fanatisme des zélotes et de l'aveuglement phariséen, de pharisaïque.
Ah oui,
Voilà, donc.
les pharisiens, à propos, c'est quoi les pharisiens exactement, à votre avis?
C'est pas à mon avis, ils font partie de la caste sacerdotale. Il y avait les pharisiens qui tenaient le haut du pavé. Vous
À
aviez
l'époque du Christ,
à l'époque du Christ, donc les ennemis du Christ, et pas que du Christ d'ailleurs. pharisiens, les sadducéens aussi étaient présents, mais ce sont les pharisiens qui ont réussi à évincer les autres membres de la caste sacerdotale, parce qu'il y avait les sadducéens et les esséniens, et ce sont les descendants des pharisiens. Les pharisiens étaient porteurs déjà de la loi orale qui va devenir le Talmud. Et le Talmud, c'est cette loi orale à laquelle s'est d'ailleurs opposé le Christ et aussi les Sadducéens qui rejetaient cette loi orale qui va devenir le Talmud, c'est-à-dire la
C'est ça.
Mishnah, puis son commentaire, la Gemara, et qui va composer
Qui est
le Talmud.
tardivement écrit, parce que c'est d'abord
Oui,
une loi orale, c'est ça.
entre le 3e et le 6e siècle après Jésus-Christ.
D'accord. Ah, excusez-moi, l'abbé, monsieur l'abbé.
Je rends la parole.
Oui. Et donc, en fait, tout Israël est fondé sur une imposture, une double imposture. La première, on a prétendu qu'il y avait une terre sans peuple. C'est faux. En Palestine, il y avait les Sémites, il y avait les Palestiniens, d'ailleurs aussi bien chrétiens que musulmans. Et la deuxième imposture, c'est qu'on a dit qu'il y avait un peuple sans terre. C'est faux. Strictement, les Juifs avaient vocation aussi bien surnaturellement à se fondre dans le peuple de Dieu qui est ouvert à toutes les nations et aussi à s'assimiler aux nations dans lesquelles ils étaient exilés.
Vous avez dit, qu'en pensez-vous?
Alors
Ouais.
oui, alors, ce qui est exact, c'est qu'effectivement, les Juifs ne constituent plus un peuple. D'ailleurs, même en Israël, les différentes communautés, parce qu'en fait, Israël est composé de différentes communautés juives qui viennent de différents pays, du
Ouais.
Maghreb, d'Europe centrale,
Avec
d'Est,
différentes
etc.
langues,
Voilà, avec
etc.
différentes langues.
Ouais. Enfin,
Et
ils ont essayé de réunir avec une seule langue, enfin deux langues, c'est l'hébreu et puis le yiddish,
alors,
éventuellement.
le
Oui.
yiddish était la langue parlée
En
par les
Allemagne, ouais.
juifs en Europe
De l'Est,
centrale.
ouais.
Mais le problème qui se pose en Israël, c'est qu'ils ont essayé de cimenter des communautés disparates et qui se mélangent très peu, en fait. Parce que même les
Ouais.
séfarades et les ashkénazes, il y a un mépris, en fait.
Oui, c'est
Il y a un
vrai.
mépris des ashkénazes vis-à-vis
Les
des
séfarades,
séfarades, parce
oui.
qu'ils les considèrent comme leurs arabes.
Ouais.
Et en dessous des séfarades, il y a les falachas.
Ouais.
D'ailleurs, les femmes falachas, donc éthiopiennes, qui ont été stérilisées à partir du début des années 2000
Ah
en
d'accord. Ah
Israël.
ouais.
Donc tout cela ne fait pas un peuple. Même en Israël, ils
D'ailleurs,
n'ont pas réussi à
excusez-moi,
constituer
d'ailleurs
un peuple.
les dirigeants actuels d'Israël sont presque tous des Ashkénazes.
Oui, mais il y a une montée en puissance un
Des
certain nombre
séfarades. Ah
d'années
ouais,
des
d'accord.
séfarades, mais c'est toujours les Ashkénazes
Qui dirige tout de même. Ouais,
qui
qui
dirigent, qui sont majoritaires. Et donc, bon, déjà en Israël, ils ne parlent pas tous hébreu, mais la majorité parle hébreu, mais même en Israël, les communautés restent plus ou moins
indépendante,
voilà,
enfin,
hétérogènes,
ouais,
séparées
d'accord.
les unes des autres. Donc non, à l'échelle mondiale, il y a une diaspora juive, mais qui est composite. Et en Israël, il n'y a pas de véritable peuple
Ouais.
israélien.
Alors la diaspora, justement, elle a commencé très très tôt ou quoi? Enfin,
Bah, depuis
parce
la première diaspora que les Hébreux appelaient la Gola, si ma mémoire est bonne, la première diaspora, c'est les Judéens, donc le royaume du Sud, qui ont été déportés en partie par les Babyloniens. En fait, ceux qui ont été déportés, c'était les élites judéennes. Les
D'accord.
commerçants, les lettrés, les prêtres, etc. Donc ils ont été déportés. La première donc diaspora juive ou judéenne, elle remonte à cette époque-là, à la domination babylonienne. Donc ce sont installés à Babylone. D'ailleurs, même quand il y a eu le retour entre guillemets des Judéens grâce aux Perses
Ouais.
en Judée, la majorité n'ont pas voulu rentrer en Judée. Ils étaient très bien à Babylone. D'ailleurs, ils ont été formés par les Babyloniens au métier de la banque, etc. Donc ça, c'est la première. Et puis, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a eu l'époque perse, puis l'époque hellénistique, la domination de la Palestine, de la Terre Sainte
Par les Grecs.
par les Grecs. Donc là, il y a eu, encore une fois, une expansion diasporique des Juifs à l'époque, et aussi l'époque romaine. D'ailleurs, les Romains ont expulsé de Jérusalem tous les Juifs. Et à ce moment-là, il y a eu une nouvelle expansion diasporale des Judéens en Méditerranée, au sein même de l'Empire romain. Donc on peut faire remonter l'histoire diasporique des Juifs à l'Antiquité, à cette époque-là.
Très bien. Alors justement, puisque il s'agit de historiquement des gens qui ont chassé les Juifs d'un pays ou d'un autre, hein, et justement, on va passer la parole à Monsieur l'abbé Olivier Rioux, qui a écrit justement l'anti-judaïsme chrétien selon le magistère. Donc, dans ce livre, très intéressant, il donne la liste justement, en ce qui concerne la France, de qu'est-ce qu'ont fait les papes, les évêques, etc., vis-à-vis de la communauté juive qui habitait la France depuis très longtemps. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de ça, mon père?
Oui, donc il y a eu au moins 7 expulsions
Alors ça
donc
commence quoi? Au Moyen Âge.
c'est pas Saint-Louis, c'est son grand-père, je crois. J'ai un
Oui,
doute,
nous
mais
allons
c'est tout.
retrouver.
La première, c'est non, non, ça date bien, je suis bête. C'est Childebert au 6e siècle, en
Oui, c'est ça,
533.
voilà.
Ensuite
Dans
Dagobert en
vraiment le
633. Ensuite,
début du Moyen Âge, ouais.
le grand-père de Saint-Louis, ou son père Philippe Auguste. puis Saint-Louis, puis Philippe le Bel, puis Philippe V, Charles VI, Charles VIII, Louis XII, Louis XIII et puis Louis XIV qui a expulsé les Juifs des colonies.
Alors ils expulsent et parfois ils font voter, enfin ils font voter, ils décident ou ils donnent des décrets comme quoi les Juifs n'ont pas le droit de faire ça, on fait, etc. De pas...
Oui, alors donc ça s'inspire de la législation instaurée un peu partout par des princes et aussi par les papes, par l'Église, l'Inquisition.
Les Romains ont fait ça, la même chose avant. Hein.
Oui, parce que je vous dis, les mêmes causes, les mêmes principes, il y a un fanatisme zélote qu'on voit bien aujourd'hui chez les chefs du sionisme. Il suffit d'aller voir quand on leur donne un micro, les excès auxquels ils sont capables. Et malheureusement, ça fait des millions de morts. Hein, ça fait puis les effets, les destructions. Donc, l'expérience à chaque fois, on voit bien même chez les papes aussi. Il y a un pape était parfois se laisser attendrir. Des rabbins venaient dire qu'ils avaient beaucoup souffert, que la loi était très dure pour eux. Et puis on allégeait, et puis on allégeait, et puis de nouveau les problèmes augmentaient, financiers, moraux, et puis aussi de sécurité. Hein. Dans l'histoire de l'Église, par exemple dans l'histoire des nations chrétiennes, bien souvent il y a eu des juifs, des communautés juives qui ont participé à la trahison de la cité, du comté, du duché ou du pays, que ce soit en Espagne, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, etc. Donc la sage politique, à un moment donné, vous devez bien ou bien vivre dans le pays qui les accueillait, mais avec des restrictions, avec des protections et aussi des privilèges entre guillemets, pas entre guillemets d'ailleurs. Et puis ou alors quand c'était vraiment les excès avaient été trop forts ou une politique plus ferme, et bien c'était l'expulsion pure et simple. Donc ça a été une constante dans les nations chrétiennes. Et c'est déjà Saint-Agobard, qui est un archevêque de Lyon, avait déjà mis en garde.
Vous avez pris ce nom pour votre édition d'ailleurs.
Exact, oui, mon patronage. Ouais. Il avait mis en garde Louis le Pieux, justement, des exactions et de l'esclavage. Il y avait un commerce d'esclaves entre l'Espagne qui passait par la France et puis qui arrivait dans les régions germaines. Et il avait émis comme principe, qui sera validé plus tard au quatrième concile de Latran en 1215, qu'il faut reconnaître aux Juifs leur humanité, mais leur refuser absolument la citoyenneté, parce qu'il voyait les désordres sociaux, économico-politiques que cela allait engendrer. Et c'est le concile de Latran qui a validé ce principe, on peut dire qu'il va ensuite éclairer la politique des nations chrétiennes. Donc oui, on reconnaît l'humanité aux Juifs, c'est-à-dire qu'on ne ment pas à un Juif, on ne vole pas à un Juif, etc. Mais on leur refuse toute citoyenneté, c'est-à-dire qu'ils restent des étrangers et des étrangers sous surveillance parce que leur doctrine talmudique est une doctrine dangereuse, fanatique, dont doit protéger les nations accueillantes. Voilà. Oui. Juste une petite citation, mais j'en abuserai pas. C'est un docteur en sciences politiques qui faisait un article que je cite souvent dans mes études. Et voici ce qu'il dira du 4e. Le 12e concile, donc le 4e concile de Latran en 1215, fut donc obligé de revenir sur la question. Il consacra donc trois canons qui furent insérés dans le droit canonique de l'Église. Il était défendu aux Juifs d'exiger des intérêts exagérés, à peine d'être privés de tout rapport avec les chrétiens. Donc, souvent, les princes chrétiens aussi, avant d'expulser, quand les dettes, l'usure avait été trop importante, on se remboursait en annulant les intérêts. On devrait s'en inspirer aujourd'hui, vu le système financier mondial. Ceux-ci, de leur côté, ne doivent pas avoir avec eux des relations suivies sous peine d'excommunication. Et on ne doit leur confier aucun emploi public. Voilà. Donc, pas de charge publique. Ce sont des étrangers et on les maltraite pas, mais on ne leur donne pas un pouvoir sur la nation qui les accueille. Et si on le fait, le contrevenant doit être puni et le juif sera lui aussi mis révoqué et confisqué en bien d'argent. Et enfin, on voit apparaître l'injonction aussi de distinguer par les vêtements ou du moins une marque visible. C'est donc le Concile de Latran qui va généraliser une pratique qui existait déjà, d'avoir un signe distinctif pour qu'on puisse reconnaître que cette personne qui est en face de moi, eh bien, est un juif, c'est-à-dire elle adhère au Talmud avec ses valeurs dangereuses. Donc ça va être la rouelle sous Saint-Louis, donc qui manifestait la pièce d'argent de Judas, le traître qui a vendu 30 deniers. Ce sera aussi le chapeau pointu dans les pays germaniques. Ce sera la double loi en Angleterre. Ce sera l'étoile jaune aussi dans certains pays, à Prague.
La couleur jaune, d'ailleurs, d'une façon générale. On voit que le régime du Troisième Reich n'a rien inventé, finalement. Oui.
Ah non, il a simplement remis au goût du jour une vieille pratique dans toute l'Europe chrétienne.
Oui, très bien. Et alors, justement, il y a une chose en ce moment qui se vote à notre Assemblée, enfin, qui tente de passer, et qui risque de passer, d'ailleurs, c'est la loi Yadan. Vous êtes au courant de cette histoire-là. Vous pouvez nous en dire deux mots
Alors ça fait un certain nombre d'années que le CRIF tente de faire passer une loi. Il y avait déjà eu une ordonnance qui a été votée, donc c'était en 2018. Donc il y a eu une pression sur Emmanuel Macron par le CRIF pour interdire, d'une certaine façon, l'antisionisme. Mais pas l'interdire comme ça frontalement, c'est plus vicieux. C'est assimiler l'antisionisme à de l'antisémitisme.
Oui, c'est ça.
Et donc rendre toute critique radicale de l'État d'Israël,
sa politique,
comme étant hors la loi, puisque antisémite. C'est-à-dire qu'en fait, si je résume, si on attaque par exemple la politique de l'actuel gouvernement de Netanyahou, qui est responsable, coupable d'un génocide et d'une tentative d'épuration ethnique à Gaza, selon le droit international, la Cour internationale de justice, eh bien, vous seriez hors la loi si cette loi Yadan passe.
Ouais.
Or, il y a une pétition s'opposant à cette loi.
Oui,
et pétition a récolté 600 000 signatures.
Oui.
Et elle a récolté quelques dizaines de signatures favorables, dont celle de Arthur Sebag, etc. Donc c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, j'avais publié un article
Loi a été proposée par cette dame qui s'appelle, je ne sais plus son prénom, mais qui s'appelle Yadan.
Oui. Qui est député.
Qui a remplacé Habib Meyer, fameux Habib Meyer.
Voilà.
D'ailleurs, ce poste de député des Français de l'étranger est un truc nouveau qui a été inventé comment il s'appelle déjà un président de la République. Bref, passons.
Oui, alors, il y a plusieurs circonscriptions pour les Français de l'étranger et Yadan, qui a succédé à Meir Habib, est député des Français d'une certaine circonscription qui intègre les Français d'Israël.
D'Israël, oui.
Sachant qu'il y a beaucoup de franco-israéliens.
Oui, voilà. Effectivement. Voilà. Et alors, cette loi, tout absolument invraisemblable, enfin, je pense, c'est-à-dire interdit donc toute critique de la politique d'Israël, c'est-à-dire on ne peut plus rien dire, quoi. C'est la censure
non,
absolue.
Ça veut dire en gros que vous devez applaudir ce que fait Israël à Gaza, ce que fait Israël en Cisjordanie, ce que fait actuellement Israël au Liban, qui, alors je le dis pour les chrétiens qui se disent sionistes et qui revendiquent le judéo-christianisme, qui tuent des chrétiens et détruisent des églises à tour de bras, au Liban, à Gaza et ailleurs. Et d'ailleurs, ils ont même bombardé une synagogue à Téhéran récemment.
Ah oui.
Voilà, Israël a bombardé une synagogue à Téhéran.
Oui. Donc... Enfin, je pense que c'était une erreur, j'imagine.
Peut-être que l'école qui a été bombardée par les Américains deux fois de suite en une heure était une erreur. Peut-être que les 160 hôpitaux aussi qui ont été bombardés étaient une erreur. Peut-être aussi que les universités bombardées, c'était des erreurs.
Ouais. Oui, ce qu'on appelle des dégâts collatéraux.
Certainement...
On a connu ça avec la Serbie à une époque.
Oui, 85% des infrastructures civiles à Gaza rasées, ça devait être aussi une erreur.
Oui, voilà. Un dégât collatéral.
Voilà.
Voilà. Je me retourne vers notre abbé.
Ce n'est que malheureusement un phénomène.
Peut-être on peut parler deux minutes de la guerre, justement. Qu'en pensez-vous de cette guerre épouvantable? Enfin, j'ai déjà mangé le morceau. Enfin, bon.
C'est...
Que doit en penser, justement, dans cette histoire de judéo judéo-christianisme. Moi, j'ai des copains, j'ai des amis qui sont aristocrates et traditionalistes, et ils sont judéo-chrétiens, si vous voulez.
Je vous dis que tout est fondé sur une ambiguïté, un équivoque. Quand ces gens-là disent judéo-chrétien, ils pensent à la loi mosaïque qui prépare le Christ, qui s'est transcendé et perfectionné dans le Christ, qui disait « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir par la loi de la charité et ouvrir le peuple de Dieu à toutes les nations. » Dans ce sens-là, oui, il y a bien un Ancien et un Nouveau Testament qui sont unifiés dans le Christ, qui est la pierre angulaire. Mais aujourd'hui, c'est utilisé par la propagande sioniste, surtout chez les hérétiques protestants, les évangéliques américains, dont Trump fait partie. Donc aujourd'hui, l'État d'Israël, c'est un État terroriste, même selon le droit, je dirais, profane. Et ça a commencé avant même la création de l'État d'Israël en 48.
En 48,
donc, cette guerre et ce fanatisme, tant qu'on leur laissera la liberté de le faire, c'est plus fort qu'eux. C'est leur idéologie. Et malheureusement, une idéologie, elle veut s'incarner. Et quand elle est fausse, elle s'incarne dans le malheur et dans la destruction.
Et là, on voit dans cette guerre, donc, le but, c'est quoi? C'est le grand Israël, conquérir toujours plus de terres, occuper la Cisjordanie, le Sud-Liban, le Golan, etc.
Bon, oui, ça a toujours été le projet, même des premiers sionistes, qu'ils soient laïcs ou religieux d'ailleurs.
Ouais.
Le projet a toujours été la conquête de ce qu'ils estiment être la terre qui a été promise par Dieu à Abraham. Donc ils nous disent que Dieu a promis à Abraham toute cette terre du Nil à l'Euphrate, et que par conséquent, l'Israël moderne devrait accomplir cette mission, alors que personne ne leur a rien demandé, c'est-à-dire de conquérir toute la terre du Nil à l'Euphrate. Et donc pour ce faire, ils ne peuvent pas le faire seuls, parce que c'est quand même un pays... Oui. Qui n'a pas de frontière légale et qui est composé de 10 millions d'habitants.
Je relève ça, c'est l'un des rares pays qui n'a pas de frontière absolument fixée.
C'est le seul pays au monde qui n'a pas de frontière.
C'est incroyable.
Pas de frontière, pas de constitution.
Ouais, d'ailleurs, il y a des Israéliens qui le disent, qui le dénoncent. Hein,
oui, c'est un pays qui n'a pas de frontière. Et donc, pourquoi ? Parce qu'ils estiment que leur frontière... en puissance, c'est-à-dire en devenir, c'est du Nil à l'Euphrate. Alors ça intègre quoi? Parce que peut-être pour les gens qui n'ont pas une carte en tête, c'est le Sinaï égyptien, c'est le nord de l'Arabie, c'est toute la Palestine.
De l'Arabie saoudite.
Même la péninsule arabique, parce que quand on regarde une carte, ça intègre même le Koweït. Alors la Syrie, une partie de l'Irak, tout le Liban, bien sûr, et évidemment la Jordanie au passage. Et d'ailleurs, le ministre des Finances, Smotrich, a déclaré fin 2024 que les frontières d'Israël ne se limitaient pas au grand Israël, que ça allait même plus loin. Il a dit Israël ira jusqu'à Istanbul, c'est-à-dire la capitale turque. Donc, en fait, c'est un ministre qui dit cela. Et même l'opposition, Yair Lapid, qui est l'opposant de Netanyahou, qui est un homme politique de gauche, entre guillemets, on lui a posé la question, on lui a dit, mais l'ambassadeur des États-Unis, Mike Huckabee, a déclaré face à Tucker Carlson qu'il serait bon qu'Israël conquière toute la terre du Nil à l'Euphrate. Et on lui a demandé ce qu'il en pensait. Il a dit, Dieu nous a donné toute cette terre, les frontières d'Israël vont du Nil à l'Euphrate. Donc, que ce soit la gauche israélienne ou la droite israélienne, ils sont nus du même projet.
Il faut bien que les gens comprennent, quand je reviens sur le terme judéo-chrétien, qui est une bombe, un piège qu'il faut rejeter. Quand on parle aujourd'hui à un juif, on parle donc à un talmudo-sioniste qui adhère à une idéologie rabbinique. Et voici ce que disait le rabbin Yaakov Perin, c'était en 1994. Il disait ceci: 1 million d'Arabes ne valent pas l'ongle d'un juif. C'est ça la mentalité de ces gens-là. Ils ne le disent pas. Alors Yadan, elle ne dira pas ça, mais elle adhère au projet idéologique qui a pour base ce qu'on vient de vous dire. 1 million d'Arabes, ça ne vaut pas l'ongle d'un juif. Le goy Le Talmud fait une distinction entre le juif et les animaux. Il y a un intermédiaire, c'est nous, les goïm, les goïs. Voilà l'idéologie talmudo-sioniste. Voilà pourquoi, eh bien, on comprend mieux pourquoi eh bien, cette sévérité envers ces gens qui adhèrent à cette idéologie dans le passé, chez les Romains, aussi bien que chez les peuples chrétiens après.
Oui, d'ailleurs, dans cette guerre atroce, il y a, je crois, le chef de l'armée ou de la sécurité, je ne me souviens plus, un très haut personnage de l'État israélien, qui s'appelle Galant, et qui a décrété que ces gens-là n'étaient pas des hommes.
J'ai la citation, si vous voulez, en tête.
Ah, allez-y.
C'est Yoav Galant qui a été ministre de la Défense du début de...
Peut-être, il a un nom d'origine française, d'ailleurs, on dirait.
Galant. Non, je ne pense pas qu'il soit galant.
Non, il n'est pas galant, mais le nom est français. Hein.
Alors, en fait, quand la guerre à Gaza a commencé, qui s'est très rapidement transformée en massacre, en génocide, en tentative d'épuration ethnique, quand ça a commencé... Donc on est, je crois que c'est le 9 octobre 2023, donc le ministre de la Défense Galant a déclaré « Nous coupons l'eau de Gaza, l'électricité, la nourriture, ce sont des animaux humains et nous les traitons comme tels », en parlant des Gazaouis.
Ouais, texto, ouais.
Et Netanyahou, premier ministre israélien, a déclaré « Nous réalisons les prophéties d'Ésaïe, nous sommes le peuple de la lumière ». Ils, les Palestiniens, sont le peuple des ténèbres.
Voilà.
Et d'ailleurs, la rapporteuse de l'ONU, Francesca Albanese, a indiqué, puisqu'il a aussi parlé d'Amalek, en disant que cette guerre était une nouvelle guerre contre Amalek, donc un peuple à exterminer, d'après le récit biblique. Et donc, elle dit, cette mention d'Amalek au début de la guerre, peuple de ténèbres, etc., animaux humains, ce sont des déclarations qui sont génocidaires, et des propos qui préparent le génocide.
Ouais.
C'est pas rien, c'est pas juste du lyrisme israélien. Ouais. Ce sont des paroles qui ont entraîné des actes.
Ouais. De toute façon, acte ou non acte, ce sont des paroles insensées, quoi.
Enfin, ils les ont traitées comme telles.
Délirantes. Et ce Galant, d'ailleurs, il n'est plus au pouvoir, d'ailleurs, je crois. Il a été remplacé. Les bornes vocalement, je vais dire.
Il a quitté son poste en raison d'une opposition avec Netanyahou quant à la façon de mener la guerre. Absolument pas parce qu'il serait extrémiste. Parce que Smotrich et Ben-Gvir, d'autres ministres, sont même pires que
actuellement,
lui.
Actuellement.
Oui, c'est pas une sanction. Hein. Voilà. C'est pas une sanction, en effet.
Effectivement. Alors, nous passons à Bobino pour notre publicité interne.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Oui, n'oublie pas vos cotisations pour cette radio qui ne vit que de vos dons. Voilà. Et évidemment, rame. Voilà. Merci. Et alors continuons. Je ne sais pas, je n'ai pas la parole à l'abbé. Pour son très riche livre, là, on a parlé un peu de tout. Il y a peut-être d'autres choses, il y a peut-être d'autres citations. Oui, par exemple, Ariel Toaf, ça vous dit quelque chose à la fin de votre volume?
Ce qu'on peut dire au passage avec cet exemple, c'est que, paradoxalement, il y a plus de liberté, même au niveau de la presse, en Israël, sur ce sujet, sur le sujet du sionisme,
du judaïsme
politique.
Ouais. Mais c'est vrai qu'on a oublié de dire qu'en Israël, il y a une opposition, il y a différentes...
Quand je lis la presse française et que je lis la presse israélienne est plus radicalement critique du gouvernement de Netanyahou, même de la politique israélienne, que la presse française.
Oui, ce qui est
la presse occidentale, en général.
Oui. Oui, la presse américaine, anglaise, etc.
Voilà, donc ils ont plus de liberté de ce point de vue-là que nous.
C'est parce que sans doute ils voient les choses de plus près
c'est pas cela, c'est qu'ils ont, étant israéliens eux-mêmes, ils ont des libertés que leur accorde l'État d'Israël, qu'on n'accorde évidemment pas à un arabe israélien, qu'on n'accorde pas à un palestinien et qu'on n'accorde pas en France... Un non-juif, par exemple. Si vous prenez nos écrits, vous pouvez trouver l'équivalent de nos écrits chez certains auteurs juifs. Par exemple, je ne sais pas, si on parle de l'histoire de l'antijudaïsme en Europe, Si vous prenez le livre de Bernard Lazare, L'antisémitisme, son histoire et ses causes, oui, bon, évidemment, c'est un livre qui est gênant, plus personne n'en parle aujourd'hui, mais il ne viendra à l'esprit de personne, ni de Finkielkraut, ni de je ne sais qui, de condamner Bernard Lazare, qui était d'ailleurs un Dreyfusard, pour son livre. Mais si ça avait été un non-juif qui avait écrit le même livre que Bernard Lazare, bien sûr, il aurait été vilipendé, etc. Et voilà, comme Céline, d'ailleurs.
Oui, oui. Effectivement, oui.
Il faut le noter, c'est quand même voilà, c'est remarquable.
Il ouais, ouais.
faut le noter.
Monsieur l'abbé,
oui, on bah, approchant la... je partage.
Voilà. Partage. Alors, est-ce que vous avez un différent entre vous sur l'histoire juive ou sur la, je ne sais pas,
oui,
la guerre?
Je pense que
la
différence va être sur justement la partie vraiment juive, c'est-à-dire la partie mosaïque jusqu'au Christ. Je partage les analyses de M. Indy, surtout celles qui sont les plus récentes, parce qu'il a plus de compétences que moi en géopolitique. Non, le différent, c'est vraiment le mosaïsme, de Moïse au Christ. C'est là que l'analyse diffère. Voilà.
Ouais.
Bah, déjà, M. l'abbé est catholique, moi je suis musulman. Donc, ça, c'est évidemment, on va avoir ouais, okay. une différence de vision de l'Ancien Testament. Mais si on veut être objectif, par exemple, quelqu'un qui est ni juif, ni musulman, ni chrétien, la réalité, c'est que l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, pose un certain nombre de problèmes ou de difficultés qui sont réglés différemment par l'Église catholique et par les musulmans. L'Église catholique, vous me dites si je me trompe, dit... Il y a des récits dans l'Ancien Testament qui sont violents, d'accord, mais ça fait partie de l'histoire qui précède l'avènement du Christ, et nous ne pouvons lire l'Ancien Testament qu'à la lumière du Nouveau Testament. Et donc un catholique, sans l'autorité cléricale, ne peut pas aller se balader, ouvrir l'Ancien Testament, le lire et en tirer l'interprétation qu'il veut. Mmh. Donc il y a... Quand on parle avec un catholique, ça m'est arrivé que je présente certains passages de l'Ancien Testament, il me dit « Attention, il faut lire ces passages, donc contextualiser, lire ces passages à la lumière des évangiles. » Ça, c'est l'approche, ouais. vous me dites si je me trompe, c'est l'approche catholique. L'approche musulmane, elle est différente. On peut être d'accord ou pas, mais elle est différente. C'est-à-dire qu'on a face à nous un certain nombre de problématiques dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. Les musulmans disent autre chose. Ils disent « Attention, il y a dans la Torah, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu et la main de Dieu, la parole de Dieu et la main de l'homme. Alors, ne la rejetez pas intégralement, mais ne l'acceptez pas intégralement. Et donc, il y a un corpus en islam, le corpus coranique, qu'on appelle le séparateur, qui distingue le vrai du faux. Ce sont deux approches différentes, totalement différentes, opposées dans certains points de vue. Mais moi, en tant que musulman, je respecte la vision catholique, puisque la vision catholique par rapport à l'Ancien Testament est, qu'on soit croyant ou pas, une façon de régler des problématiques qu'on a aujourd'hui. Parce que si vous prenez les dirigeants israéliens aujourd'hui, sans remonter à l'histoire lointaine, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, bah, regardez, moi, dans ma Bible, la Bible hébraïque, Josué, il est écrit que je dois exterminer la population qui vit à Canaan, pour reconstituer le royaume d'Israël. C'est ce qu'ils nous disent. Donc, pour eux, c'est un manuel qu'ils lisent à la lettre, littéralement. Pour eux, ils disent, ça s'est passé comme ça, et ça doit se passer de nouveau comme ça. D'ailleurs, c'est ce que dit Maïmonide. Maïmonide, le grand théologien juif, qui dit, qui a vécu autour du XIIe siècle, il dit, quand nous referons la conquête de la Terre Sainte, qui était occupée à l'époque par les musulmans, eh bien, nous infligerons à la population qui vit en Terre Sainte ce que le livre de Josué a infligé, la Bible hébraïque raconte qu'on a infligé au peuple cananéen de l'époque. Donc, voilà, juste pour dire que nous avons deux approches différentes, nous avons deux visions théologiques différentes, mais, et là, moi, j'essaie toujours de trouver un point commun, le point commun entre les musulmans et les chrétiens, c'est que nous considérons que les êtres humains sont égaux. Ils sont égaux, il n'y a pas de hiérarchie. En islam, il est dit que le meilleur Dieu vous a constitué en peuple et en tribu afin que vous vous entreconnaissiez, mais le meilleur d'entre vous aux yeux de Dieu est le plus pieux. Et le plus pieux, c'est pas le blanc, c'est pas le noir, c'est pas le juif. Voilà, j'en ai terminé pas.
Ouais. Monsieur l'abbé.
Oui, bah, de toute façon, ça, nous, on est, c'est l'héritage, non pas judéo-chrétien, mais gréco-chrétien, gréco-romain. Et donc, la philosophie le dit bien, et c'est justement l'aberration du Talmudisme. Il y a une nature humaine qui est partagée. Voilà, on est une seule race, on vient tous d'Adam. Et on est tous appelés à faire un seul peuple de Dieu.
Moi, je dirais plutôt on est une seule espèce, plutôt qu'une seule race.
Oui, ben on peut. Ouais. Après, c'est oui, mais la race humaine.
À mon avis, il y a plutôt une espèce humaine et il y a des races dans cette espèce humaine.
Oui, oui.
Quoi qu'on dise,
il voilà, faut définir ce qu'on entend par le mot race et espèce sont des analogues, donc on peut les comprendre de manière.
Ce sont tous des hommes dignes d'avoir une âme et d'être.
Maintenant, les difficultés, la principale est évoquée par Monsieur Indy du massacre ordonné par Dieu à Josué pour la conquête de la Terre Sainte. Bon, faut bien comprendre d'abord il y a le contexte évidemment. Ensuite, Shamir, c'est une belle phrase qui résume bien le problème. Il dit aujourd'hui les Juifs, il faut les traiter comme les Japonais qui continuent la guerre 40 ans après la fin de la guerre. Voyez, ils sont encore dans le traumatisme. Donc, ils avaient une mission à un moment donné qui, vu les circonstances, pouvait exiger une certaine violence, parce que Dieu est le maître de la vie et de la mort, parce que les nations à l'époque, faut pas idéal. Autant il faut reconnaître les tares, et d'ailleurs les prophètes juifs les reconnaissaient et les condamnaient, les tares du peuple juif ancien, un peuple à la nuque raide, un peuple rebelle. Donc, mais il faut aussi pas idéaliser les tribus qui entouraient Israël à l'époque. Il ne faut pas en faire des nations nécessairement plus bénignes, plus civilisées. Genre. Donc, à un moment donné, ben, Dieu juge les hommes comme juge les peuples et peut très bien se servir. D'ailleurs, il se servit parfois des Romains pour châtier les Juifs. Il a aussi pu se servir des Juifs pour châtier les Cananéens, anthropophages, idolâtres, etc. Bon, j'ai fait un livre justement pour c'est ce qu'il appelle la clé des Écritures, où je cite les pères de l'Église qui vont montrer comment, même dans le sens littéral, ces actions avaient leur raison d'être et sont légitimes, et même manifestent une sagesse et même une bonté, une justice divine. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est un anachronisme complet dû au fanatisme talmudo-sioniste de les lire à la lettre en prétendant qu'elles s'appliquent. Et c'est là qu'on revient sur l'aveuglement idéologique, l'orgueil. Hein, c'était la philosophe Simone Weil qui disait que l'Israël, les Juifs qui prétendent combattre l'idolâtrie, en fait, ont idolâtré leur propre race. Ouais. Et là, on rejoint le défaut moderne de l'homme qui idolâtre l'homme. Hein. Ça, c'est malheureusement une constante chez l'homme de être rebelle à Dieu, de ne pas reconnaître son état de créature et de s'idolâtrer. Alors, l'idolâtrie la plus perverse, ce n'est pas idolâtrer une vache ou idolâtrer une pierre, mais c'est idolâtrer l'homme lui-même, là, qui reste une créature. Et c'est ce que malheureusement, comme dit Simone Weil, c'est ce que le talmudo-sionisme fait de son idéologie.
Voilà. Eh bien... Vous avez quelque
chose? Oui, j'aimerais rebondir là-dessus sur l'auto-idolâtrie, parce que ça va nous ramener au sionisme. En fait, il y a eu une innovation au sein du judaïsme en général et au sein du courant messianique juif au XVIe siècle en particulier, une innovation extrêmement importante mais extrêmement grave qui a des conséquences en fait, jusqu'à aujourd'hui. C'est une innovation d'Isaac Luria, qui était un grand rabbin kabbaliste, qui est considéré par membres de tenants du judaïsme aujourd'hui comme un des plus grands rabbins, en tout cas de l'époque.
Il est vivant ?
Non, au XVIe siècle.
D'accord.
Il est mort en 1534, voilà.
D'accord.
si ma mémoire est bonne.
Il est plus parmi nous.
Et lui, en gros, il va opérer une innovation dans le judaïsme. Je résume de façon grossière pour que vous ayez une idée. Avant lui, la position du messianisme juif, c'était de dire, bon, même avant le XIIIe siècle, moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'était de dire, nous, le peuple juif, nous attendons à la rédemption. La rédemption doit se faire par Dieu qui envoie le Messie, parce qu'eux ne reconnaissent pas le Christ comme le Messie, contrairement, bien sûr, aux chrétiens et aux musulmans. Eux, ils disent, Dieu va nous envoyer le Messie va nous ramener en Terre Sainte. Et donc, en Terre Sainte, nous allons rétablir ce lien entre nous et Dieu. Voilà. Sauf que, avec Isaac Luria, Luria dit non, on ne va pas attendre Dieu et le Messie. Nous allons nous-mêmes nous apporter notre rédemption en retournant nous-mêmes en Terre Sainte. Et donc, en fait, il va faire du peuple juif, le concept, je termine là-dessus, il va faire du peuple juif un Messie collectif. Donc, le peuple juif va se considérer, en tout cas en partie, comme son propre Messie et acteur de sa propre rédemption.
Très bien. Je vous remercie. Malheureusement, l'émission est terminée. Je vais rappeler vos livres respectifs tout de même. L'abbé Olivier Rioux, L'antijudaïsme chrétien selon le magistère, paru aux éditions Saint-Agobard. Voilà le livre. Et puis, Pierre-Antoine Plaquevent et Youssef Indy, ici présents, Israël et la guerre mondiale des religions, paru chez Culture et Racine. Voilà, je montre le livre. Je vous remercie l'un et l'autre. Et
merci
puis,
à vous.
À une prochaine fois, j'espère.
Merci.
Vous venez d'entendre Anthologie de la création dirigée par Daniel Abrecorne, diffusée en direct sur Radio Courtoisie jeudi 9 avril 2026 de 10h à 11h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.